Eh bien, avec vous, je voudrais à nouveau ce matin demander au Seigneur, c'est pas nouveau, mais c'est toujours nécessaire. Ô Seigneur, donne-nous ta parole. Et je vais le faire à l'aide du Proverbe chapitre 30, versets 1 à 9, qui sont des paroles données par Agur, fils de Jakhée, des sentences prononcées par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Agur n'intervient que dans ce chapitre des Proverbes et il nous instruit d'une façon particulière, donc qui lui est propre. Je vous lis. Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. Je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voilà ces 9 premiers versets. Agur commence par un constat d'incapacité spirituelle absolue. On ne peut pas partir de plus bas, puisque je suis le plus stupide que personne. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse, je ne connais pas la science des saints. Il n'y a pas plus indigent que lui au plan spirituel. Il expose son incapacité personnelle, mais aussi l'incapacité de tout homme à connaître Dieu naturellement. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Personne ne le sait naturellement. Personne ne connaît le nom de Dieu, l'interrogation sur le nom de Dieu et sur le nom de son fils, qui est très intrigante ici. Mais elle n'est pas si étonnante, parce que Dieu lui-même avait déjà désigné Israël comme son fils dans l'Exode, au chapitre 4, verset 22. Lorsque Moïse s'adresse au Pharaon, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, moi, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc Israël était déjà identifié comme le fils de Dieu, unique, premier-né. Et Osée reprendra ce vocable divin sous un autre angle lorsqu'il annonce, chapitre 11, verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelai mon fils hors d'Égypte. Relation particulière entre Dieu et Israël. Amour du père pour un fils. Or, Agur pense que le nom du Fils de Dieu est encore inconnu. Et cela est vrai, parce que Israël, à ce moment-là, n'a pas encore révélé le Père. Mais à ce moment, il contient quand même en son sein celui qui va le révéler. Et la parole d'Osée sera reprise dans l'Évangile, appliquée à Jésus. Au moment où ses parents doivent fuir en Égypte, ils sont avertis par l'ange de fuir en Égypte, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Et là, le fils, c'est bien le Fils de Dieu qui vient de naître, désigné comme tel, Jésus. Et combien il est important de connaître le nom du Fils de Dieu, le Fils unique, par qui le nom de Dieu peut être lui-même connu. C'est tout l'objet de l'Évangile. Puisque nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Je vous ai fait connaître mon Père, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est là qu'est la réponse à l'interrogation, l'interpellation même. C'est une sorte quand même de défi que lance Agur. Eh bien, la réponse est vraiment dans l'Évangile. Jésus-Christ est celui qui nous fait connaître Dieu, le nom de Dieu véritable, qui nous fait entrer en relation personnelle avec Dieu en tant que notre Père. Agur en vient ensuite à la parole de Dieu, ou plutôt aux paroles de Dieu, dispensées dans la loi et par les prophètes. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Les paroles de Dieu. Oui, il y a eu un processus de révélation. Des paroles de Dieu ont été données à travers la loi et les prophètes. Elles ont été données et elles ont été authentifiées comme telles. Moïse donnait la loi, non pas de son propre chef, et cela a été bien reconnu, que Moïse a donné la loi de Dieu, qu'il parlait au nom de Dieu. Et d'ailleurs, les commandements eux-mêmes ont été gravés dans la pierre par le doigt de Dieu. Et puis les prophètes pouvait affirmer, ainsi parle l'Éternel. C'est ce qui parcourt tout leur discours. L'Éternel m'a dit. Donc, les paroles de Dieu ont été données, authentifiées, et elles sont les seules à nous donner Dieu comme bouclier et refuge. Puisque toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne. C'est lui le bouclier, le refuge, le Seigneur lui-même. Et en toute situation d'ignorance, en tout danger, en toute détresse, cherchez Dieu comme bouclier et refuge. Cherchez-le, lui, et cherchez-le à travers ses paroles. Les paroles qui ont été données et éprouvées comme étant la parole qui vient de Dieu, ou les paroles qui viennent de Dieu. Ne vous laissez pas abuser par de prétendues paroles de Dieu, ou comme le dit Jérémie, par une captation des paroles de Dieu qui les détourne de leur objet. Jérémie 23, versets 28 à 32. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles les uns l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Toujours cette confrontation avec les faux prophètes, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Qui prennent la parole du Seigneur et la restituent faussement. C'est d'ailleurs dans le Nouveau Testament le danger que prévient l'apôtre Pierre lorsqu'il dit « Il y a parmi certains dans les enseignements de l'apôtre Paul, du frère Paul, dit-il, des choses difficiles à comprendre ». Que plusieurs, alors je vais le prendre exactement, hein, prennent et en tordent le sens. Hein, c'est la deuxième de Pierre, hein, la fin de la deuxième de Pierre. Voilà, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Voilà, malheureusement, on peut prendre les paroles de Dieu et en tordre le sens. D'ailleurs, dans l'enseignement qui était donné hier, le frère mettait bien en évidence que, au moment où est apparue cette nouvelle hérésie qu'est l'islam, eh bien, en fait, elle n'est pas partie de rien, mais il y avait déjà tout un panel d'enseignements divers qui s'étaient écartés. Qui avait des sources dans l'Évangile et dans la loi de Moïse, mais qui s'en était profondément écarté. Et c'est sur ce terreau qu'a pu naître l'enseignement de l'islam. Alors, ne recevez pas, frères et sœurs, et ne produisez pas vous-mêmes, puisqu'ici, il s'agit, au verset 8, de demander au Seigneur d'éloigner de moi la fausseté et la parole mensongère. Bah, éloigne de moi dans le sens de ne pas la recevoir, mais aussi de ne pas la donner. Je pense. Avec agure, demandez instamment au Seigneur d'éloigner de vos âmes tout esprit de fausseté. Je te demande deux choses. Et la première, c'est éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Comment résister aux menteurs, si ce n'est en accueillant le Fils qui désormais est connu avec sa parole de vérité. Je vous ai dit la vérité, dit le Seigneur. En vérité, je vous le dis. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est vraiment lui que nous avons comme garantie et assurance de la vérité. Vous avez été engendré par la parole de vérité, dit Jacques. Vous êtes né de cette parole, parole vivante et permanente de Dieu qui vous a régénéré. C'est aussi l'expression qu'emploie Pierre. Engendré, régénéré par la parole de vérité. Et nulle part ailleurs, vous ne trouverez la vie. Cette vie qui est la vie même du Fils, parole de Dieu faite chair. Là, nous sommes dans la vérité et nous sommes dans la vie. Vous avez reçu la grâce de connaître l'Évangile. Amen. Continuez à pratiquer le psaume 119 dont nous venons de lire une partie jusqu'à avoir, nous l'avons lu au verset 20, l'âme brisée par le désir qui vous porte toujours vers les lois de Dieu. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers ta loi, vers tes lois. J'ai deux choses à te demander. Deux choses, dit Agur. La première, c'est que tu éloignes de moi la fausseté et la parole mensongère. Et c'est vraiment une supplication qu'il adresse à Dieu. C'est encore au psaume 119, les versets 28 et 30. À 30, éloigne de moi la voix du mensonge. Je vais le reprendre, celui-là, ce passage. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Éloigne de moi la parole mensongère. Éloigne de moi la voie du mensonge. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Nous pouvons compter sur l'action de Dieu pour répondre à cette prière, puisque si nous allons au prophète Jérémie, au prophète Ézéchiel, nous voyons l'œuvre promise qui s'est accomplie maintenant. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et puis, Ézéchiel également, chapitre 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte, le Seigneur s'engage dans l'alliance par Jésus-Christ, par le sang de la croix, le Seigneur s'engage envers nous à nous mettre en phase avec sa loi, avec ses commandements, avec son esprit de vérité. Le Seigneur ne nous a pas laissés sans recours, sans secours. Au contraire, il a répondu parfaitement à cette prière. Oui, que nous importe toutes les réussites du monde, tous les succès, toutes les réalisations de soi, si nous sommes encore sur une voie de mensonge, ou si nous portons crédit un tant soit peu. Le Seigneur nous veut totalement délivrer de l'erreur, de la fausseté, de la parole, de mensonge. Mais l'âme, donc, regarde à ces choses élevées, spirituelles, aux idées, aux enseignements, aux concepts, etc. Nous venons de voir que l'erreur la guette à ce niveau. Cependant, l'âme regarde aussi à des réalités concrètes, à des besoins que nous pouvons même qualifier de primaires. Et le Seigneur Jésus n'oublie pas de les mentionner dans la prière faite au Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la réalité de la vie concrète. Si nous avons faim, si nous ne possédons pas ce qui est nécessaire à la vie humaine, matérielle, nous sommes en difficulté. Donc l'homme regarde à son gagne-pain, à son confort, à voilà, ces choses-là sont les réalités de la vie concrète. Eh bien là encore, nous sommes en danger. Et nous voyons comment Agur l'exprime pour conclure sa prière. Deuxième demande, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel ? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Cette deuxième chose qu'il demande instamment se décompose en deux demandes égales. Ne pas avoir trop, ne pas avoir trop peu. La loi et les prophètes préviennent de la facilité avec laquelle l'âme humaine se détourne de Dieu au sein de l'abondance. Deutéronome, chapitre 6, verset 12. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Oui, il est très facile d'oublier Dieu quand tout va bien, quand nous sommes comblés de bienfaits et de richesses. Malheureusement, Israël est tombé dans le piège et c'est Osée, encore une fois, qui rappelle, Osée 13, verset 6, « Ils se sont rassasiés de leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. » Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? Dans dans tous les domaines, mais en l'occurrence dans ce domaine des biens matériels, nous recevons par grâce le travail, la capacité de travailler, les circonstances pour avoir un bon emploi, la rémunération, toutes ces choses nous sont données par Dieu. Et nous ne pouvons pas nous en glorifier. Et si nous le faisons, nous nous détournons de notre Seigneur. Finissons par mépriser ses grâces. Mais Agur y ajoute l'autre extrême, l'abandon de la probité lorsque la situation est trop dure. Et c'est un fait que le vol, la rapine, les façons de biaiser, de contourner la loi, d'être et finalement de tromper, sont également à l'œuvre chez ceux qui n'ont rien, qui manquent de tout. Et l'on peut vraiment déshonorer la gloire de Dieu si nous avons trop peu. Alors Agur reconnaît humblement, ben, « Ne me donne pas trop peu, donne-moi ce qui est nécessaire, autrement je peux moi aussi m'égarer et porter atteinte à ton honneur par la fraude, par le fait de dérober. » Reconnaissons aussi notre faiblesse à ce niveau pour rester toujours à glorifier Dieu en toute situation. Ayons ce cœur d'Agur pour demander au Seigneur ni trop ni trop peu, de sorte que nous restions vraiment attachés au Seigneur lui-même. Et alors il pourra vraiment continuer à se glorifier dans nos vies, être honoré et nous amener dans sa gloire. Je terminerai avec la fin du psaume 169, les huit derniers versets, 169 à 176, où c'est quand même une profonde détresse qui apparaît de la part de celui qui vraiment sincèrement cherche à honorer et à trouver la parole de Dieu. Et nous pouvons arriver à ces situations, en fait, où il nous semble que c'est pas possible, nous n'allons jamais réussir à vivre totalement cet amour et cette dépendance du Seigneur et de sa parole. Alors je vous laisse avec ce cri, en fait. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Le psalmiste peut vraiment demander au Seigneur de le secourir parce qu'il est attaché à la parole, parce qu'il a vraiment dans son cœur le désir. Mais si Dieu n'intervient pas pour le prendre, le chercher comme une brebis perdue, il n'y arrivera pas. Cela doit venir de Dieu. Et le Seigneur veut bien répondre à cette prière sincère et profonde qui vient vraiment du fond du cœur Et dans ces moments où nous réalisons peut-être mieux qu'à d'autres notre incapacité, tout en ayant un vrai désir d'être dans la vérité du Seigneur. Amen.